Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Je vous invite ensemble à entendre maintenant la musique qui va nous être proposée avant de prier. Et c'est le chœur de l'oratoire qui va nous proposer ce matin des chants qui sont en diverses langues, comme il est écrit dans ce texte. Vous avez entendu chanter en hébreu et en arabe de la musique donc hébraïque et puis de la musique soufie. Et c'est sans doute cette pluralité de langues qui a dû frapper et marquer ceux qui étaient le jour de la Pentecôte dans les rues de Jérusalem et qui voyaient ces apôtres parler, qui entendaient ces apôtres parler dans toutes sortes de langues qu'ils n'étaient pas censés connaître. Que sont venus faire tous ces gens à Jérusalem, ceux qui rencontrent les apôtres ? C'est la question que l'on se pose en entendant l'énumération des langues qui sont parlées ce jour-là par les apôtres. Dans cet épisode du livre des Actes, Jérusalem ressemble à Babel. Une multitude de langues y est parlée. Mais à la différence des langues parlées à Babel, celles qui sont parlées le jour de la Pentecôte à Jérusalem permettent aux hommes de se comprendre et non pas Cela ne permet pas à Dieu de les disperser, mais au contraire, cela permet aux hommes de se comprendre et de s'unir. Il ne s'agit pas ici d'un charabia informe qui divise les artisans de la tour pour monter jusqu'au ciel. Il s'agit d'un concert de langues qui relie entre eux des gens de contrées lointaines. La Pentecôte, parmi les fêtes juives, n'est pourtant pas la fête de la parole. Ce n'est pas comme ça qu'elle est présentée dans le calendrier des fêtes juives. C'est une fête agraire, liée aux moissons, et que l'on fête 50 jours après la fête de la Pâque. Une fête de la reconnaissance au Dieu qui donne la pluie et le soleil, au Dieu des moissons abondantes, au Dieu qui évite la famine. La fête de la Pentecôte est presque une fête païenne tant elle est liée à un Dieu des éléments naturels, la terre, le soleil, la pluie. Si l'on avait voulu louer le Baal, le dieu du tonnerre, sans doute lui aurait-on offert une fête semblable. Parmi les fêtes juives, la Pentecôte fait pourtant partie des trois fêtes très importantes pour lesquelles on se déplace à Jérusalem. Cependant, elle n'est liée à aucun moment important du peuple d'Israël, si ce n'est quand même la rétention en esclavagisme en Égypte. Alors évidemment, c'est un souvenir assez difficile pour le peuple d'Israël, mais c'est un moment où l'on se souvient donc que l'on a été en captivité. Malgré ces références au calendrier agraire, l'ancien Israël, comme les récits évangéliques, y a vu très tôt une dimension spirituelle. Même s'il ne faut pas trop couper les questions matérielles des questions spirituelles, et que de bonnes récoltes étaient dans la culture juive signe d'une vie meilleure et d'un salut pour le peuple. Le thème de l'effusion du Saint-Esprit lié à la fête de la Pentecôte est déjà présent dans les écrits du Premier Testament. Dans le livre du prophète Joël, il est question de dévastation agraire, d'invasion de criquets qui amène la famine. Et dans ce livre, la terre est personnifiée tellement elle est importante et tellement sa souffrance est grande. Terre, n'aie pas peur et sois dans l'allégresse. Ici, la terre ne désigne pas le monde, mais bien la terre arable, celle qu'on va cultiver et qui donnera ce qu'elle peut donner. Et ce thème de la terre qui souffre et dont Dieu va faire une terre fertile est suivi tout de suite après du thème de l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple, ainsi sauvé de la famine. Dans ce livre, le prophète Joël, les deux sont liés et la Pentecôte devient une fête des moissons, mais aussi une fête du don de l'Esprit Saint. C'est ce texte de Joël que l'apôtre Pierre choisit de citer quand il prend la parole après l'événement de polyglossie qui se déroule à Jérusalem. Pierre annonce « Je répandrai mon esprit sur vous, dit Dieu, vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand et magnifique jour. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà la citation que fait Pierre du prophète Joël. Quand Pierre choisit ce passage biblique pour s'adresser à cette foule de pèlerins lors du grand discours qui suit le texte que nous avons lu ce matin ensemble, il s'inscrit dans une sorte de millénarisme qu'il relie à Jésus. Pour lui, il s'agit de montrer à tous ces Juifs qui sont là, venus pour la Pentecôte à Jérusalem, tous ces pèlerins qui sont venus pour remercier Dieu de ses bienfaits, il s'agit de leur montrer que Jésus, celui qu'on a pendu au bois, était réellement le Christ, le Messie, et que c'est le temps de la moisson qui est arrivé, abondante. Le temps du salut qui est enfin arrivé. Après toutes les annonces faites par les prophètes, le temps est enfin venu. Qui sont-ils tous ces gens qui parlent tant de langues différentes et qui vont écouter Pierre faire son discours au milieu de la rue ? Ce sont ceux que l'histoire d'Israël a dispersés depuis les grandes périodes d'exil. La diaspora juive était très vaste à l'époque de Jésus et beaucoup de Juifs vivaient loin de Jérusalem, dans des pays où, la plupart du temps, on les laissait vivre leur religion sans trop de peine. Pour la fête de la Pentecôte, comme pour Pâques ou Soukhot, ils revenaient à Jérusalem pour vivre un temps de renouvellement de leur appartenance au peuple d'Israël. Tous ces gens viennent donc à Jérusalem pour retrouver une racine commune. Ils viennent ici pour faire communauté autour du Dieu qui sauve et qui donne la vie. À l'époque où le texte des Actes est écrit, les persécutions contre les Juifs ont déjà montré la férocité d'un empire qui ne veut plus vivre sous le régime de la tolérance religieuse. Et de nouveaux exilés apparaissent. Ceux qui ont quitté la Jérusalem profanée en 66 ou en 70 ou entre deux, ceux qui ont peur pour leur vie, ceux qui résistent comme juifs, alors que les autorités cherchent à les marginaliser à cette époque-là, parce qu'ils se rebellent. Sans doute revenir à Jérusalem à l'époque de la rédaction de ce texte était devenu impossible pour certains chrétiens qui avaient suivi ce rabbin particulier qu'était Jésus, mais aussi pour les Juifs eux-mêmes qui avaient vu leur temple mis à sac. Ce sont donc des Juifs effrayés qui vivent à cette époque, à l'époque de la rédaction du texte, dans toutes les régions de la diaspora. Raconter une telle fête de Pentecôte est donc un acte subversif. La rue, envahie tout à coup par des Juifs de toutes les contrées de la diaspora, des apôtres parlant les langues de tous ces gens devenus indésirables à Jérusalem, un discours d'accomplissement prononcé publiquement par Pierre après la mort de Jésus, tout cela est une image du courage et de l'engagement qu'il faut parfois dans la foi. Ce sont donc des hommes et des femmes engagés et courageux qui sont ce jour-là à Jérusalem, et le symbole des langues de feu n'est pas anecdotique. La parole en ce temps-là, comme aujourd'hui dans certains lieux, requérait le plus grand courage. Et il fallait avoir une langue bien brûlante pour arriver à annoncer les merveilles de Dieu. Avec ce récit, l'Esprit de Dieu dont parlent les prophètes s'incarne dans des langues qui disent Dieu, qui disent son salut pour l'homme, qui disent aussi la diversité des points de vue pour comprendre Dieu. D'une force invisible, impossible à identifier si ce n'est dans la nature qui redevient nourricière, abondante, généreuse, ce récit des actes fait d'une fonction humaine, la parole, une fonction divine. Le Dieu des champs et des récoltes devient le Dieu qui parle avec l'homme. Depuis toujours dans les Écritures, Dieu parle, bien sûr, et c'est même la particularité de ce Dieu qui se fait connaître par sa parole. Mais dans ce récit, Dieu a une langue qu'il va diviser sur tous les apôtres, organe des humains, organe de chair, outil pour articuler le discours de la foi. Dieu déjà, dans son Fils, s'était approché de tous par l'inspiration qu'il lui avait donnée. Mais ce récit nous raconte comment la langue, la parole devient le point commun entre ce Dieu lointain et les hommes qui n'ont que la parole pour salut. Ce ne sont pas des flammes qui se posent sur la tête des apôtres, mais bien des langues. Désormais, ce sont des mots qu'ils récolteront, ce sont des mots qui les feront vivre, ce sont des mots qui les relieront à Dieu. La force brutale des éléments, le tonnerre, la pluie, les pluies diluviennes qui ravageaient les récoltes, les invasions de criquets, les maladies, toutes ces calamités qui les mettaient en danger, tout cela sera remplacé. Tout cet incompréhensible ne sera plus le langage de Dieu pour punir un peuple. La langue de Dieu sera intelligible, compréhensible, et les hommes n'auront plus peur. Car il s'agit bien ici de l'image que tous ces gens se font de Dieu et de la peur de ses grands jugements. Si la fête de la Pentecôte était la fête où l'on venait apporter ses offrandes pour remercier Dieu, elle était aussi la fête durant laquelle on se mettait en règle avec lui, apportant du fruit de ses moissons, de son travail, de peur qu'il ne reste pas dans de bonnes dispositions. Avec les apôtres, la Pentecôte devient la fête d'un peuple rassemblé qui n'a plus peur de son Dieu, qui n'a plus peur des hommes, qui n'a plus peur de rien. Un peuple d'exilés revenu sur sa terre et qui compte bien avoir la liberté de dire ce qu'il a à dire. Ce sont les hommes eux-mêmes qui deviennent la moisson de Dieu. Ce sont eux qui sont offerts en signe de reconnaissance pour lui, car ce sont eux qui reçoivent ses langues. Aujourd'hui, nous avons baptisé deux personnes qui ont cherché le salut et la bénédiction de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons accueilli deux autres personnes qui ont voulu dire leur foi dans le Dieu proche, celui qui sauve d'une vie sans espoir, qui rend digne et qui aime inconditionnellement. Et c'est avec la plus jeune de toutes ces personnes que nous avons entendu parler de ce Dieu qui est plus fort que la mort. Comme un retour sur la terre promise après l'exil, comme une diaspora rassemblée et sauvée, nous venons de vivre cette entrée de quatre croyants dans cette communauté. Et cela ne veut pas dire que les quatre personnes parlent la même langue pour dire la même foi. Chacun à sa manière dit sa relation à Dieu et à son salut, et nous l'avons entendu ensemble. Il y a la langue qui dit le besoin de dignité, vous l'avez entendu, celle qui dit le besoin de guérison, celle qui dit le besoin d'appartenance, celle qui dit le besoin de confiance dans l'avenir. Chacune de ces langues est incarnée. C'est la vie de chacun qui forme jour après jour la théologie de chacun, son rapport à Dieu et à sa promesse. Dans le livre des Actes, on insiste sur les langues différentes des gens pèlerins de Jérusalem. Mais Dieu aussi est polyglotte. Il parle une multitude de langues, car il parle à une multitude de personnes qui ont chacune une vie, une culture, une histoire personnelle différente. Dans l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, je vois plus qu'un mystère incompréhensible du divin qui s'incarne dans l'humain dans une espèce de magie. Je vois plus que cela la façon qu'a Dieu de parler à chacun dans sa langue. Je ne parle pas seulement de nos langues maternelles, le douala, l'alsacien, le cauchois pour moi. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est ce tissu culturel qui fait que nous sommes chacun formés de multitudes de signes, de symboles, de représentations, d'émotions qui constituent ce qu'on appelle notre moi, car on ne sait pas comment dire autrement. Ce moi que nous brandissons comme un bloc monolithique dès qu'il s'agit de nous affirmer contre les autres, mais dont nous savons qu'il est composite, essentiellement composite, et impossible à cerner. Nous sommes le résultat d'une multitude de faits, d'actes, de songes, de paroles, de visions, d'imaginaires et de réels. Et Dieu parle dans cette langue qui nous constitue et qui fait de nous des êtres singuliers, et sans doute aussi à cause de cela, des êtres parfois profondément seuls avec ce que nous appelons nous-mêmes. L'esprit qui s'est posé sur les apôtres sous forme de langue brûlante, vibrante, brillante, est cet esprit qui nous permet d'imaginer que malgré cette singularité, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Malgré cette solitude profonde, nous pouvons être les uns avec les autres. Parce qu'il y a un Dieu qui parle toutes les langues, qui les reprend toutes et qui comprend tous les éléments qui nous composent. C'est lui qui est notre unité. C'est sans doute une fiction, car nous ne pourrons jamais cerner ce fait, nous ne pourrons jamais le prouver, le vérifier. Nous ne pourrons pas vérifier que nous comprenons réellement les autres, ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils pensent. Nous ne pourrons jamais vérifier que nous nous aimons vraiment les uns les autres comme nous sommes. Nous ne pouvons d'ailleurs aimer l'autre que comme nous-mêmes, dit l'Écriture. Mais cette fiction est notre espérance. Elle nous permet de vivre dans la foi en un Dieu qui nous rassemble. Elle nous permet de former des communautés de gens extrêmement différents qui ailleurs ne se seraient pas retrouvés sans doute. De trouver une langue commune dans nos prières, alors que nous prions tous différemment quand nous sommes seuls. De partager notre pain et nos offrandes alors que nos moyens sont tous différents et que nous avons tous des vies extrêmement différentes. Le Dieu polyglotte nous rassemble parce qu'il comprend la langue de chacun. Alors bienvenue à vous qui venez mêler votre langage de foi au langage de foi qui existe déjà dans cette maison. Nous parlerons ensemble. C'est une promesse de Dieu. Et notre solitude deviendra communion. Amen.